Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, dans la curiosité, on part visiter des lieux saints partagés. Quelle jolie expression, des lieux où se côtoient avec intelligence plusieurs religions. Bonjour Dionigi Albera.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes ethnologue, directeur de recherche au CNRS. C'est quoi un lieu saint partagé?
C'est un lieu où il y a des fidèles de religions différentes qui convergent et qui donc habitent ensemble ce lieu de manière temporaire, avec des modalités qui peuvent être différentes.
Il y a des règlements, quoi. Il faut s'arranger.
Oui, il faut s'arranger. Après, du point de vue du contrôle, il y a des lieux qui appartiennent à une seule religion et qui sont fréquentés également par des fidèles de religions différentes. Il y a des lieux qui sont convoités par des religions différentes et parfois, cela rend un peu plus difficile la coexistence.
Dans l'actualité, on parle plutôt des lieux qui divisent. Alors, ça fait plaisir de prendre le temps de parler de ces lieux saints partagés. Est-ce qu'ils sont nombreux sur Terre? Est-ce qu'il y en a sur tous les continents?
Oui, il y en a, ils sont très nombreux. Il faudrait voir les différences aussi de contexte. Il y en a partout, par exemple en Asie, dans le cadre de religions qui ont une vision différente de l'appartenance, où il n'y a pas une identité religieuse affirmée, il n'y a pas des dogmes, des croyances, comme dans les religions monothéistes. Et également, dans les monothéismes, qui sont des religions qui ont davantage tendance à être fermées aux autres croyances, là aussi, on peut constater qu'il y en a.
Alors, on en a choisi quelques-uns seulement, mais ils vont être passionnants. Direction Jérusalem, Haïfa, l'île de Djerba et même Vieux Marché. C'est où Vieux Marché? C'est dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Dans l'ancien palais des colonies, actuel musée de l'histoire de l'immigration, une exposition qui montre les rencontres et parfois les chocs entre religions.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais l'exposition rappelle que certains y laissent la vie. Le jésuite Paolo Dall'Olio s'est constitué otage volontaire au groupe État islamique. Et à ce jour, on reste sans nouvelles de lui.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Ce sont des îlots de partage qui n'échappent pas aux tensions. Pourtant, on découvre les lieux saints partagés à l'occasion de l'exposition du même nom au Musée National de l'Histoire de l'Immigration. C'est dans le 12e arrondissement de Paris. C'est jusqu'au 21 janvier. Dionigi Albera, vous êtes ethnologue et vous commencez ce voyage par nous emmener en Terre Sainte. C'est ici qu'on trouve le plus de lieux saints partagés. Pour quelle raison?
Oui, la Terre Sainte est le berceau des monothéismes. C'est un lieu qui est saturé d'histoire, de symboles. C'est une terre qui est peut-être trop sainte aussi. Il y a une surcharge de symboles qui font que parfois la vie dans ces lieux est difficile. Et en Terre Sainte, il y a de nombreux lieux qui évoquent des figures, des épisodes qui sont communs aux trois religions monothéistes.
On va commencer par Jérusalem, évidemment. Qu'est-ce que cette ville représente pour les juifs, les musulmans et les chrétiens?
Jérusalem est la ville sainte, la principale ville sainte pour les juifs, pour les chrétiens, et elle est considérée comme la troisième ville sainte pour l'islam. C'est vraiment le carrefour de ces trois religions. Et c'est là que, comme je le disais tout à l'heure, pour la Terre Sainte dans l'ensemble, cette coexistence est parfois aussi parfois difficile.
Où est-ce qu'on trouve des tensions, par exemple, autour du Saint-Sépulcre? Là, on va avoir des tensions entre les religions. Pourquoi?
Au Saint-Sépulcre, il y a des tensions plutôt à l'intérieur d'une seule religion.
C'est vrai.
Entre des confessions chrétiennes et...
Alors, il y a quoi? Il y a les orthodoxes?
La liste est longue.
Allez-y.
Il y a des orthodoxes, il y a des catholiques, il y a des arméniens, des coptes, des éthiopiens. Ouais. J'en oublie sûrement.
Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y a presque eu des bagarres entre prêtres autour du Saint-Sépulcre.
Oui. Ça arrive, car on est là vraiment dans la question du contrôle. L'espace est partagé entre ces différentes confessions et il est réglé au centimètre près, on peut dire, par un règlement qui date de l'époque ottomane, qui date du 19e siècle, et on ne peut pas déroger à ça. Même une porte entrouverte peut générer un conflit, oui. Et ce qui est aussi curieux, c'est que, vu qu'il y a cette concurrence, aucune confession ne détient le contrôle de la porte du Saint-Sépulcre. Et donc, les clés sont confiées à une famille musulmane. Et il y a une autre famille musulmane qui est responsable, après, d'ouvrir la porte avec une cérémonie qui a lieu tous les matins et tout le soir.
Joli. On reste symbole. En Terre Sainte, on part en Cisjordanie, une région de la Palestine, à Bethléem, où on y trouve la basilique de la Nativité. Ça, c'est un vrai lieu saint partagé. C'est un lieu chrétien à l'origine qui est fréquenté par les musulmans, c'est ça?
Oui, et c'est une fréquentation de très longue durée. On a des témoignages d'une fréquentation musulmane déjà avant l'an 1000. Donc ça fait 1000 ans que des musulmans se rendent dans cette basilique.
Qu'est-ce qui les unit dans cette basilique, chrétiens et musulmans?
Les musulmans reconnaissent Jésus en tant que prophète et non comme fils de Dieu. Et c'est surtout la figure de Marie.
Les musulmans reconnaissent l'existence de Marie.
Eh oui.
On le sait rarement.
Hein. Oui, et on en parle plus d'ailleurs dans le Coran que dans la Bible.
Oui, tout à fait. Marie est citée 34 fois dans le Coran et 19 fois dans l'ensemble du Nouveau Testament. Ce qui, même d'un point de vue quantitatif, est très intéressant. Et on peut voir que cette figure est aussi la seule femme qui est citée nommément dans le Coran, avec son prénom. Dans le sens que toutes les autres femmes sont évoquées en tant que filles d'un homme, épouse de quelqu'un, mais pas avec leur nom. Et donc Marie est vraiment unique de ce point de vue.
On reste en Terre Sainte, direction Haïfa, où la grotte d'Eli rassemble 4 religions. On vous explique pourquoi tout de suite sur RTL Les Curieux.
Vous écoutez RTL.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La curiosité, c'est le nouveau 14h-15h sur RTL. Et cet après-midi, c'est un voyage dans les lieux saints partagés que l'on vous propose avec l'ethnologue et directeur de recherche au CNRS, Dionigi Albera. Alors, on part maintenant avec vous au nord-ouest d'Israël, à Haïfa, pour raconter l'histoire de la grotte d'Eli. On est sur le mont Carmel. Pouvez nous décrire les lieux, cette grotte, c'est quoi? Ça ressemble à quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est une synagogue. C'est un lieu qui est à proximité de la mer, sur le mont Carmel, qui a une importance biblique. C'est le lieu où le prophète Élie aurait combattu et vaincu les prophètes du dieu Baal, et où il aurait habité. Il y a toute une série de récits qui parlent d'Élie qui vit dans des grottes, et notamment dans cette grotte qui est la plus connue, et qui est un lieu qui est fréquenté depuis des millénaires par des gens de religions différentes. Il a été à la fois chrétien, musulman, et il est devenu maintenant juif. Depuis 1948, c'est une synagogue, mais c'est une synagogue particulière, c'est un lieu ouvert où les gens de religions différentes peuvent y accéder dans une atmosphère de coexistence pacifique, de convivialité.
Et c'est donc important de citer, c'est aussi pour ça qu'on a voulu vous inviter dans cette émission sur RTL, pour parler aussi de lieux où les religions monothéistes réussissent à vivre ensemble. Alors, si Denis tout à l'heure disait 4 religions dans la grotte d'Eli, donc il m'en manque une là, si j'ai bien compté.
C'est les Druzes.
Les Druzes. Alors, c'est qui les Druzes? Parce qu'on s'y perd parfois.
Oui, alors les Druzes, c'est une branche dissidente de l'islam qui a plusieurs siècles de vie. Donc, elle est considérée en général comme séparée de l'islam, même d'un point de vue de la généalogie, elle appartient à cette histoire. Et en effet, les Druzes ont des croyances qui sont différentes. Par exemple, ils croient dans la réincarnation, ce qui n'est pas présent ni dans l'islam, ni dans les autres religions monothéistes. Et les Druzes sont présents en Israël, en Syrie, au Proche-Orient.
Mais ça veut dire quoi dans cette, ce qui est aujourd'hui une synagogue, dans cette grotte d'Eli, ça veut dire qu'il y a des signes des 4 religions? On peut trouver des signes des 4 religions ou pas?
Non, c'est une synagogue avec les signes juifs. Ouais. Mais les gens s'approprient de cet espace et ils pratiquent des rituels. Par exemple, les musulmans se déchaussent. Et ils accomplissent des prières avec la posture corporelle typique de la prière musulmane. Et les chrétiens font de même avec leur posture qui est propre à leur tradition religieuse.
Dionigi Albera, on part maintenant en pleine Méditerranée, sur l'île de Lampedusa, cette île italienne proche de la Sicile, près de laquelle des centaines de migrants ont fait naufrage. Pourquoi cette île est un lieu saint partagé?
C'était plutôt un lieu saint partagé, dans le sens que pendant plusieurs siècles, Lampedusa était une île qui était déserte, il n'y avait pas d'habitants, et il y avait seulement une chapelle consacrée à la Vierge, et à l'intérieur de cette chapelle, il y avait également la tombe d'un saint musulman. C'était donc un lieu de brassage interreligieux, et les marins qui appartenaient les marins turcs, arabes, européens faisaient escale dans cette île pour chercher de l'eau, de la nourriture, et ils visitaient cette chapelle, ils laissaient des offrandes. Ces offrandes étaient souvent de la nourriture, des objets qui pouvaient être utiles pour la survie, et seulement les naufragés de l'époque pouvaient les utiliser. Donc c'était une forme d'entraide entre des gens qui se faisaient la guerre, qui appartenaient à des civilisations qui étaient en conflit.
Parallèle avec l'actualité d'aujourd'hui et les naufragés, ces migrants qui continuent de chercher à venir vers l'Eldorado européen. Qu'est-ce qui reste comme signe de cette coexistence religieuse sur l'île de Lampedusa?
Il reste la mémoire de ce sanctuaire qui, depuis le 19e siècle, est seulement chrétien. Mais il y a eu des cérémonies interreligieuses qui ont été effectuées devant ce sanctuaire récemment. Il y a cet esprit d'hospitalité et d'entraide qui est quelque chose de commun et qui fait vivre à nouveau cette ancienne histoire.
Âme saine partagée.
On part maintenant en Turquie et, comme promis, en Bretagne, avec là aussi un lieu saint partagé à y découvrir. A tout de suite sur RTL.
Sur la période septembre-octobre, RTL réalise sa meilleure rentrée depuis 15 ans et se classe une nouvelle fois première radio de France.
Nouvelle rentrée record sur RTL. Vous êtes 6,5 millions à nous écouter chaque jour.
Grâce à vous, RTL est la radio qui rassemble chaque jour le plus grand nombre d'auditeurs. C'est aussi la radio écoutée le plus longtemps.
Merci pour votre confiance et votre fidélité, n'est-ce pas les grosses têtes?
RTL, première radio de France.
Un esprit d'équipe, ça s'entend tout de suite. RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Les lieux saints partagés, c'est le thème de notre curiosité et le nom de l'exposition à découvrir au Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est à Paris jusqu'au 21 janvier.
Et pour vous faire plaisir, André Facetta, le réalisateur, vous offre un peu de bignou.
Alors, c'est pas que pour nous faire plaisir, parce que le bonheur...
Vous, la Bretonne.
Les idées, nous sommes avec l'ethnologue Yonidji Albera. On s'entendait pas à découvrir un lieu saint partagé en Bretagne, à Vieux-Marché, dans les Côtes-d'Armor. Qu'est-ce qu'on découvre? À quoi ça ressemble, ce lieu?
C'est un lieu où il y avait un pardon breton, un petit pèlerinage sur lequel s'est greffé un pèlerinage islamo-chrétien où il y a des chrétiens et des musulmans.
Mais quand vous dites un pardon, c'est quoi? C'est une petite église?
Oui, c'est une
pierre,
petite, c'est une petite église.
Ouais.
Et qui était par ailleurs étudiée par mon collègue Manuel Pénicaud, qui est commissaire avec moi de cette exposition Lieux saints partagés au musée de l'histoire nationale de l'immigration. Et il a consacré toute une thèse à ce pèlerinage qui naît comme pèlerinage islamo-chrétien dans les années 50, et il y a une figure tutélaire, c'est la figure de Louis Massignon. Louis Massignon, c'est un grand savant, un islamologue et en même temps fervent catholique, qui a consacré sa vie à l'islam, à la connaissance de l'islam. À certains moments, il a découvert un pèlerinage qui était dédié à sept saints, et il a greffé donc sur ce pèlerinage l'idée des sept dormants d'Éphèse.
D'accord, donc la chapelle s'appelle la chapelle des sept...
dormants. Des sept saints.
Et ça rejoint les dormants d'Éphèse. Alors
oui.
Donc du coup, on a quoi? On peut avoir le même jour des pèlerins des deux religions qui s'y retrouvent, ou chacun a sa date, si j'ose dire?
Non, c'est le même jour. Et il a été conçu comme un pèlerinage commun. Et le pèlerinage existe encore aujourd'hui.
Ouais. Ça rassemble beaucoup de monde.
C'est le dernier week-end de juillet, le dimanche. Et il y a donc à la fois la messe catholique, mais également la récitation du Coran. Donc les personnes qui participent au pèlerinage assistent aux deux. Et après, il y a un repas commun, donc dans un esprit de convivialité, et qui est consacré à la mémoire aussi d'Abraham, qui est un peu la figure qui est commune au trois monothéisme et qui est liée au thème de l'hospitalité.
Yonidji Albera, on va visiter avec vous maintenant l'un des derniers lieux saints partagés encore en activité, direction l'île de Djerba. Que représente la synagogue de Griba?
Griba est un terme arabe qui veut dire solitaire, mystérieuse. Et c'est le nom de cette synagogue où encore aujourd'hui, il y a un pèlerinage auquel participent des juifs, mais également des musulmans qui se mêlent et qui pratiquent des prières, des rituels ensemble. C'est un lieu qui garde une trace d'un passé qui était beaucoup plus commun. Jusqu'aux années 40-50, il y avait des centaines de milliers de juifs qui vivaient en Afrique du Nord. Et il y avait des centaines de lieux saints partagés entre juifs et musulmans. Avec le départ massif des juifs, tout ça a disparu. Et le pèlerinage de l'Agriba de Djerba, c'est un peu le dernier cas qui subsiste aujourd'hui.
Et est-ce que vous nous décrivez finalement cette coexistence pacifique entre religions? Finalement, c'est tout ce que veulent combattre les terroristes, et notamment les terroristes islamistes. Est-ce que ces lieux saints, notamment celui-là, à Djerba, c'est une cible pour les terroristes?
En effet, il a été une cible. En 2002, il y a eu un attentat revendiqué par Al-Qaïda qui a tué, c'était pas lors du pèlerinage, mais il a tué, il me semble, 19 touristes allemands. Et clairement, ces lieux dérangent les fondamentalistes, tous ceux qui sont pour ériger des frontières entre les religions, pour voir la religion comme synonyme d'antagonisme et de conflit.
Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu vous inviter et pour ça qu'on a voulu vous raconter sur RTL l'histoire de ces lieux saints partagés.
Merci beaucoup Dionigi Albera. Je rappelle cette exposition à voir à Paris jusqu'au 21 janvier au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, les lieux saints partagés. Pour compléter cette visite, ou la remplacer si on n'a pas la chance de pouvoir se déplacer à Paris, ce très beau livre coédité chez Actes Sud et Musée National de l'Histoire de l'Immigration, Coexistence, les lieux saints partagés en Europe et en Méditerranée. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Merci.
Vous écoutez RTL.